Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au guide de l'auto, édition du 26 juin 2021. Go Habs Go!
Go Habs Go et bonne fête nationale en retard, Antoine.
Ouais, c'est ça. Puis là, écoute, Canadien joue ce soir.
Oui.
On va voir.
On est rendu là.
On va. Ben non, Canadien joue pas ce soir. C'est pas vrai. Je me suis trompé. Hey, je suis pas bon, hein.
Je sais pas.
Parce que là, dans le fond, ils ont gagné la série. Puis on attend de savoir qui va gagner entre les Islanders. Puis.
Parce qu'il faut savoir qu'on enregistre vendredi matin, là.
Ouais, non, je sais bien, mais là, c'est qui gagne entre les Islanders puis Tampa Bay pour savoir contre qui le Canadien va jouer.
Effectivement.
Puis là, ça se peut que je sois décalé dans ce qu'on dit, là, mais enfin, bref.
Bref, cette introduction me rappelle qu'on parle d'auto, hein, nous,
oui,
et non de
exactement.
Hockey.
Oui, mais écoute, on est à quelques coins de rue d'une Ford Taurus qui s'est faite complètement démolir, alors...
ça ressemble un peu à ça.
Ça ressemble un peu à ça. Bon, on va parler de char, parce qu'on est là pour ça.
Absolument.
Puis, comme tu peux le voir, mes capacités de hockey sont assez limitées. Alors, je ne ferai pas semblant que je m'y connais.
Mais des fois, tu es bon pour patiner.
Ouais, c'est ça. Civic Hayon, ça a été dévoilé. Puis, hey, elle est belle.
Ben voilà. Hein, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ça vaut la peine d'aller voir les photos si vous n'avez pas pris le temps de le faire encore. Donc, il y a quelques semaines, on avait dévoilé la Civic Berline.
Ouais.
Et la suite logique, c'était qu'on dévoile la version à Hayon à 5 portes.
Puis je conduis la Civic Berline la semaine prochaine. Je la présenterai dimanche prochain à Salut Bonjour, d'ailleurs. Bien hâte de découvrir cette auto-là. On sait que c'est une voiture importante, là.
Une voiture très importante pour le Québec, pour le Canada, mais pour Honda aussi. Là.
Ouais.
Donc, on peut jamais rater notre coup avec le Civic parce que c'est un volume beaucoup trop grand. Là.
Ouais,
bref,
c'est ça.
Alors il faut être sûr de ne pas commettre de gaffe. Et bien, esthétiquement, tu l'as dit, elle est belle, oui. Elle paraît très bien. C'est moins lourd comme présentation que par le passé. Tu vas me dire que ça va être difficile. Ça aurait été difficile de faire pire.
Surtout la partie arrière. Parce qu'évidemment, toute la partie avant ressemble beaucoup à la berline.
Ouais.
Mais la partie arrière, c'est très fluide comme design. On a éliminé les fausses prises d'air, les faux diffuseurs de pare-choc arrière, les 2-3 ailerons. Tu sais, bon, ce qui lui donnait un look Pontiac Bonneville SSEI, là, tu sais.
C'est pas nécessairement un compliment.
Non, c'est ça. C'était beaucoup trop, là. C'était de l'over-design. Puis on parle pas de la tipeur, là, évidemment. On l'a pas vu encore, celle-là.
Non. Mais il y a un truc qui me fait peut-être hésiter, là. On nous a présenté les couleurs et il va y avoir un mauve. Je sais, là, qu'on est des voitures gris, noir, blanc, mais mauve sur une Civic à rayons, j'ai hâte de voir ça. Ça va être spectaculaire. Ça va nous rappeler les années 90, j'ai l'impression.
Tu te souviens que la dernière Civic Hatchback 3 portes qu'on a eue, elle était disponible dans une couleur aubergine qui a eu quand même certains succès.
Mais
là,
toutes les voitures étaient disponibles à ce moment-là en couleur aubergine. On se rappelle de la Windstar.
Oui, monsieur.
Et pour les mécaniques, c'est pas compliqué. C'est les mêmes que la berline.
Sauf qu'on a une manuelle.
Oui, voilà. Donc ça, c'est la grande différence. Sinon, c'est 4 cylindres atmosphériques de 2 litres et 1.5, mais turbo-compressé.
Et là, on s'attend à ce que le prix soit un peu plus compétitif que le modèle à Hayon actuel, parce qu'elle est fabriquée en Amérique du Nord, pas au Canada, par contre.
Exactement. Donc, la Civic à Hayon qui nous quitte était fabriquée au Royaume-Uni. Donc, on sait que les coûts de fabrication sont élevés, les coûts d'importation, parce qu'il faut l'amener jusqu'ici, c'est élevé également. Et là, on va l'assembler en Indiana. Donc, ça devrait faire toute une différence, ou du moins, ça devrait consolider l'inflation, là, parce que je suis pas sûr que ce soit une aubaine nécessairement, mais c'est ça. On va contrôler l'inflation avec ce changement-là. J'ai hâte de voir le succès qu'elle va connaître parce que, bon, en tout cas, sur papier, ça semble très prometteur, mais les compacts à Hayon, on s'essouffle un petit peu, j'ai l'impression. Les consommateurs sont moins là qu'auparavant.
Ben, regarde, la Forte 5, personne n'achète ça.
Personne n'achète ça. La Golf, ça disparaît. La Mazda 3 à Hayon, c'est difficile. On dit pas que c'est un mauvais produit. Là.
Par contre, c'est peut-être l'exception, parce qu'en proportion, on en vend à peu près égal à la berline.
Oui, mais au total, on en vend moins qu'auparavant.
Oui,
là.
Mais
en unité absolue.
C'est encore une voiture à volume.
Oui,
Corolla Hatchback se vend bien.
Oui, oui, oui. C'est plus petit, là, mais ouais.
C'est ça. T'sais, c'est un segment qui ne va pas en augmentant. Ça, c'est
non,
sûr.
c'est ça. Donc, Honda persiste des signes. Donc, on va suivre ça de près. Puis, comme on a dit, ben, ça semble prometteur.
Bon, une autre nouveauté qui a été dévoilée, c'est le Nissan Pathfinder de luxe. Le Infiniti QX60, pardon, qui a une sacrée belle gueule, mais quand tu regardes l'habitacle, c'est un Pathfinder de luxe.
Ben, effectivement.
Ben, dans le fond, la structure, la motorisation, c'est toute la même affaire.
Et c'est la stratégie qu'on a mis de l'avant hein, ces dernières années, en fait, depuis plusieurs années chez Infiniti, de proposer une version de luxe d'un équivalent chez Nissan avec plus ou moins de subtilité. C'est peut-être ça qui manque. Effectivement, c'est pas vilain au look, mais bon, c'est rien de révolutionnaire. Hein,
ben,
disons
je te
ça
dirais,
comme ça.
Moi, je suis peut-être pas tout à fait d'accord avec toi parce que sur le plan esthétique, puis. Je me permets de dire qu'il n'y a pas une Infiniti, peut-être à part le QX80, sur le plan esthétique, n'est pas réussi. Tu sais, je trouve qu'on a toujours des designs intéressants.
Oui, mais c'est pas révolutionnaire, c'est ce que
pas
je veux dire.
Non.
C'est pas laid non plus, mais c'est pas révolutionnaire. C'est correct.
Sauf que le QX60, ça a été pendant plusieurs années le véhicule à volume d'Infiniti.
Absolument.
Donc, s'il y a un véhicule avec lequel on peut pas se tromper, c'est celui-là.
Et le QX50 aurait dû devenir le véhicule à volume,
puis
mais
on
bon,
l'a pas.
Ça ne s'est pas passé. Donc, et bon, tu le disais, même mécanique que le Pathfinder, donc V6, 3.5 litres. Et la grande nouveauté ou la grande annonce, c'est qu'on n'a pas de CVT. Donc, on a une transmission automatique. Tout ce qu'il y a de plus conventionnel à 9 rapports.
Ce qu'on aurait dû amener dans le QX50.
Ben oui. Et ça, ben, on n'a pas de chapeau, mais on le lève quand même. Là.
C'est ça. Fait que c'est sûr que ça va connaître du succès, mais évidemment, on pensait même que le QX50 allait connaître du succès et c'est bien en deçà de ce à quoi on s'attendait parce que justement, ils ont fait un paquet d'erreurs. Infiniti est une marque qui souffre énormément. Alors, j'ai hâte de voir si finalement il y aura un sauveur chez Infiniti avec ce véhicule-là parce que ça en prend un. Là. Si ça fonctionne pas,
ça sera fini.
Moi, je donne pas cher de la peau de la marque.
Non, effectivement.
C'est pas plus compliqué que
effectivement.
Ça. On change de catégorie. Ferrari qui a finalement dévoilé la remplaçante de la F8 Tributo et telle qu'on l'avait prévu, on abandonne le moteur V8 au profit d'un V6 turbo compressé.
Oui, V6 turbo compressé et hybride, hein, quand même, il faut le mentionner. Donc, V6 à double turbo compresseur, donc c'est une mécanique très, très moderne. On est à 819 chevaux, là, donc pour ceux qui lèvent le nez sur le fait que ce soit un V6, quand même, la puissance, la puissance, elle est là. Bon, on a une batterie de 7,45 kWh. Et là, tiens-toi bien, là, on va être bon pour faire 25 km en mode électrique. Et ça, c'est selon les normes européennes qui sont toujours surestimées. Donc, ça va être moins que ça. Je le sais.
L'hybridation est là pour la performance, pas pour l'économie d'essence.
Mais quand on regarde ça, c'est quand même particulier, là, une autonomie électrique comme un Crosstrek PHEV. Quand on a une Ferrari entre les mains, je veux bien y mettre un peu de bonne volonté. Là, mais j'ai de la misère un petit peu. Mais sinon, pour le reste, franchement, c'est vraiment...
Elle est magnifique. Ben, le design, c'est extraordinaire.
Et je trouve qu'on a eu un bon coup de crayon hein, ces dernières années parce que la Roma qu'on a dévoilé justement il y a quelques années, qu'on a eu la chance de voir l'année dernière, c'est une superbe voiture et c'est le cas encore de cette nouvelle Ferrari. Ben, je pense qu'on n'a même pas donné son nom. C'est la 296 GTB. Donc, c'est une très belle évolution et franchement, c'est très réussi. Et il ne faut pas se mettre d'œillères pour le V6. Ça va peut-être froisser certains puristes et on sait qu'ils sont nombreux dans ces marques de prestige italiennes. Mais bon, on
mais
est rendu en 2021.
Pour moi, sans même l'avoir conduite ou l'avoir vue physiquement, c'est une réussite pour moi sur toute la ligne parce que non seulement cette voiture-là constitue une super belle transition et le début d'une nouvelle époque chez Ferrari, mais en même temps, ça contribue à faire des anciens modèles 458, 488, F8 Tributo, des modèles qui vont être encore plus convoité que par le passé, oui. Parce que tu vas toujours avoir des puristes qui vont vouloir conserver
absolument.
L'attrait du moteur V8.
Et même des puristes qui vont vouloir la boîte manuelle, hein, qui sont déçus de que ce ne soit plus offert depuis plusieurs années ouais. déjà, qui vont se tourner vers des modèles des années 80, 90, et ils ont la cote, là, les Ferrari, entre guillemets, anciennes et classiques. Là.
Peut-être sauf la mondiale.
Oui, puis encore, tu sais, ça valait trois fois rien, puis...
Aujourd'hui, c'est 50, 60 000.
Ben minimum. Oui, ouais. Tu sais, c'est finalement, c'est beaucoup de sous pour ce que c'est. Ça reste une aubaine pour une Ferrari, mais pour ce que c'est, finalement, ça reste une somme considérable.
C'est du trouble pour un peu plus cher qu'avant.
Oui, effectivement.
Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Pas tous les jours, Germain, qu'on a la chance de conduire une voiture d'un demi-million de dollars qui va aussi perdre énormément de valeur en un temps record.
Oui, ça, c'est une autre histoire.
C'est pas les voitures qui conservent le mieux leur valeur. Gabriel Gélinas et moi avons eu la chance de conduire cette voiture-là dans les dernières semaines.
Que je me sens exclu, mais quand même un peu. Hein?
Mais oui, effectivement.
On confie ça juste à des chroniqueurs automobiles d'expérience.
D'expérience, OK. Vivement les cheveux gris, alors.
Et on nous confirme que ce sont les cheveux gris qui confirment l'expérience et non pas la bédaine. Alors Gabriel, d'abord, parle-moi un peu de cette voiture-là sur le plan technique, parce que tu l'as conduite toi aussi sur 3-4 jours.
Exact. Oui, le caractère demeure le même que celui des autres Rolls-Royce. Bien, évidemment, c'est une nouvelle génération, surtout le rouage intégral maintenant. Ce qu'il n'y avait pas avant.
Ouais.
Donc ça, c'est la grosse nouveauté pour la Ghost. Mais ça demeure, tu sais, ça demeure des véhicules qui sont aussi lourds qu'un Cadillac Escalade. Là, tu sais,
à 50 kilos près, exact. C'est la même chose qu'un Suburban.
Oui, exact. Mais voilà,
Suburban, alors qu'on a une berline entre les mains.
Ouais.
Là,
exact. Oui, mais c'est gigantesque. Oui, oui. Tu sais, quand tu la regardes sur photo, tu dis « OK, c'est une grosse berline », mais quand tu es à côté de toi, c'est épouvantable. Moi, je l'ai stationnée à côté de la grosse brune chez moi. D'ailleurs, c'était assez drôle. Et c'est plus long que la grosse brune. Là.
Il y avait 500 000 $ de différence entre les deux.
Oui, exactement.
Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est... Puis même la position de conduite, tu montes dedans, là, mm-hmm. puis c'est vraiment surélevé par rapport... Évidemment, t'es pas assis comme dans un VUS, mais t'es définitivement assis plus haut que
dans
une voiture conventionnelle,
ouais,
exactement. Ouais. Mais ce qui est vraiment complètement bluffant, là, c'est le moteur. T'sais, parce que tu t'attends pas à ce que ça marche comme ça, là. Mais le V12 biturbo de BMW, quand tu l'écrases, là, la pédale, là, tu sens la voiture. On dirait que la voiture se lève, puis ouais. Là, elle part. Comme un train.
Mais tu sens rien.
Exact. Fait que tu vois juste le paysage qui défile à la vitesse grand V, puis... Tu vois même pas, il n'y a même pas de tachymètre là-dessus. C'est le cadran, ouais, c'est le power reserve.
Comme c'est drôle, ça.
Tu vois ouais. que ça bouge, là. Mais, man, t'as pas l'impression.
Et pour les auditeurs, je tiens à mentionner que Gabriel nous fait des signes d'aiguilles qui accélèrent.
Mais à la radio, on les voit pas.
C'est ça.
Malheureusement.
C'est juste pour vous illustrer.
Tu as parlé de la mécanique BMW. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a été chercher chez BMW avec cette voiture-là? Parce que, on parlait du prix en introduction. Il faut quand même justifier cet écart considérable.
Ouais. L'autre chose qui est importante de mentionner à propos de la Ghost, c'est que c'est la nouvelle plateforme.
C'est ça.
Ce que Rolls-Royce appelle Architecture of Luxury. C'est pas comme avant. La première Ghost, c'était essentiellement une plateforme de série 7 exactement modifiée. Mais là, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont vraiment des éléments propres à Rolls-Royce, notamment l'architecture, la structure. Donc, c'est pas rien. Et l'autre truc qui est vraiment très intéressant de cette voiture-là, c'est évidemment la suspension avant avec ce qu'ils appellent le Planar Suspension System. Et ça... c'est une suspension vraiment, vraiment très bien mise au point qui fait en sorte que c'est un peu comme si tu avais un amortisseur supérieur sur le triangle de suspension supérieure. Et ça élimine toutes les vibrations à haute fréquence. Et sur une route, il faut vraiment que la route soit magané, là, comme on dit en bon québécois, là, vraiment fracturé pour que tu sentes quelque chose. Mais
et comme il n'y a pas beaucoup de routes qui sont fracturées
sur les routes où il y a des ondulations ou des petites bosses, là, tu sens rien.
C'est ça. Tu flottes. Ouais. Puis c'est comme, en fait, pour vulgariser, c'est un peu comme s'il y avait une suspension sur la suspension.
Oui, tout à fait.
Tout ce que la première suspension ne fait pas, la deuxième vient régler le problème. Mm. Puis c'est une auto qui est tellement lourde en plus. Fait que non seulement tu comprends que, tu sais, bon, tu flottes parce que tu as une suspension qui est pneumatique avec tout ce système-là qui vient faire le travail énormément, mais le fait que la voiture soit lourde, bien, il y a comme un contre-ballant. D'un côté, tu as une suspension qui te fait rouler sur un nuage puis qui te donne l'impression que l'auto est presque légère, comme si tu flottais. Mais d'un autre côté, tu es extrêmement « groundé », si tu permets l'expression, sur la route. Puis l'autre. Bien plus qu'avant, parce que c'est une voiture qui est stable quand même.
Oui, tout à fait. Mais évidemment, tu sais, ça reste une masse très élevée. Là. Tu ne vas pas rouler vite dans les virages ou quoi que ce soit. Mais toujours est-il que le comportement est très rassurant, très prévisible aussi. Et l'autre truc qui est cool aussi de cette voiture-là, c'est toutes les petites touches qu'ils ont conservées, comme par exemple l'ajustement de la chauffage-climatisation. Ouais, c'est encore les vieilles molettes avec les tirettes pour ouvrir ou fermer les buses de ventilation. Ça,
On a encore les parapluies aussi, évidemment.
Oui, les parapluies intégrés dans l'iPod. D'ailleurs, je pense que la seule pièce qu'ils ont retenue de l'ancienne Ghost sur la nouvelle, c'est le Spirit of Ecstasy, c'est-à-dire le symbole qui est à l'avant de la calandre, et les parapluies dans les portes. That's it. Tout le reste, là, même si la voiture a sensiblement le même look que l'ancien modèle, mais tous les panneaux de carrosserie,
parapluie
tout le reste
qui coûte en passant 1 800 $ chacun.
Ouais, donc on peut facilement tomber, puis là, je ne sais pas si rendu dans ces sphères-là, on parle de piège, mais on peut la personnaliser la voiture comme on veut. On peut cocher des options.
Cette voiture-là avait 129 000 $ d'options.
Exact. Et puis elle n'avait pas tout, là, en plus.
Non.
Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Tu sais, pour te dire, quand tu dis qu'il y a un frigo avec deux flûtes à champagne dans la coudoir centrale en arrière.
Mais la Caliber avait le coffre à gaz réfrigéré, mais je pense pas qu'il y avait...
La Dodge Caliber,
oui. C'est ça. Mais je pense pas qu'il y avait de flûte à champagne. Non,
le ciel étoilé avec les étoiles filantes.
Oui, non, c'est sûr que si on est dans le domaine du très, très grand luxe, il y a personne qui a besoin de ça. Mais pour les gens... Puis j'espère... Tu sais, 500 000 $ c'est énorme comme prix, là, tu sais, comme voiture. Bref, il faut vraiment vouloir conduire ça, puis s'afficher, puis l'assumer aussi, parce qu'il y a quand même un certain...
Oui, je veux t'amener là, Gabriel, parce que, tu sais, moi, j'avais fait les calculs de façon un peu cocasse. 461 000 $ plus taxes fait 530 000 financé sur 6 ans à 5 % de taux d'intérêt, c'est toujours bien 8 800 par mois.
Oui, c'est ça. Okay? Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui financent ça.
Il y a personne qui finance ça, mais j'ai fait le calcul de façon cocasse. Mm. Puis, comme tu dis, à ça vont s'ajouter... Bon, tu pourrais ajouter encore beaucoup plus d'options. Et puis, il y a toutes les taxes de luxe, tout ce que tu voudras qui vient avec. C'est indécent comme facture.
Et ce qui est fascinant, c'est que c'est la petite Rolls-Royce en plus.
Bon.
En plus.
Mais qui achète ça?
Ouais. Ouais, ben écoute.
Parce qu'ils en vendent quand même une vingtaine par année au Québec, là, ces trucs-là?
Oui. Ils en vendent, je pense, effectivement, à peu près ça, une vingtaine par année. Qui achète ça? Écoute, c'est de toute évidence, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens.
De toute évidence, pas toi et moi.
C'est ça. Mais disons que, tu sais, moi, personnellement, je ne m'achèterais jamais ça, là, mais je peux comprendre, par contre. Tu sais, je peux comprendre l'intérêt des gens pour ce niveau de confort-là. C'est sûr que la consommation est astronomique. On parle d'une consommation de VUS.
Oui, mais par rapport à ce que c'est... Tu sais, honnêtement, je me serais attendu à pire. Parce que moi, j'ai fait un Montréal-Québec sur autoroute là, à 12 litres et demi au 100. J'ai trouvé ça raisonnable. En ville, c'est effrayant.
Mais proportionnellement, le montant qui va être dépensé en essence par rapport à celui du coût de la voiture n'est pas si élevé comparativement à une voiture ordinaire.
Oui, c'est vrai.
Proportionnellement,
mais,
là.
De toute façon, les gens... Cette voiture-là, ça va servir à quoi? Il y a des gens qui s'en servent comme on dit en anglais, comme « daily driver », comme voiture de tous les jours. Surtout depuis maintenant qu'il y a le rouage intégral qui est de série.
On salue M. Saputo, d'ailleurs.
Exactement. Donc là, tu peux envisager l'idée de mettre des pneus d'hiver puis conduire ta Rolls-Royce en hiver. Pas sûr si on va avoir beaucoup sur la route. Peut-être plus des Cullinan que des Ghosts. Mais ça demeure une possibilité maintenant. ça devient plutôt une possibilité maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Tu sais, donc, tu te déplaces. Puis tu sais, quand tu roules sur l'autoroute des Carrés, tu passes devant le concessionnaire, tu as toujours les 5-6 Rolls qui sont alignés dans la salle de montre. Puis honnêtement, ils prennent soin, ce concessionnaire-là, de rouler l'inventaire pour que tu ne vois pas tout le temps les mêmes 5-6 voitures, même s'ils n'en ont pas 200 en inventaire. On s'entend, à 5-6, 700 000 la copie, à un moment donné.
Non, mais... et d'en avoir en inventaire, je ne sais pas, parce que quand tu veux, quand tu es rendu justement dans cette sphère-là, tu veux l'avoir selon tes goûts à toi, pas nécessairement selon les goûts de celui qui l'a commandé.
Oui, sauf que quand ton client arrive dans la salle de montre,
qui vient de gagner l'Automax et qui dit j'en veux une.
Peut-être, mais surtout, c'est une chose de regarder, puis on fait tout ça, là, toi, moi, Antoine, on s'amuse des fois avec les configurateurs sur Internet à se monter des bagnoles puis qu'on n'achètera jamais. Mais c'est possible de faire ça aussi avec Rolls-Royce. Mais quand tu es dans cet univers-là, même chose comme chez Ferrari, même chose chez Lamborghini et tout, de voir l'auto qui est devant toi, de voir les cuirs, juste de t'imprégner de cette ambiance-là, c'est souvent ça aussi qui va être un élément déclencheur. Et là, à partir de ce moment-là, oui, tu peux t'asseoir avec le sympathique conseiller et passer des heures et des heures à configurer ta voiture.
T'sais. Ou prendre celle qui est là.
Ou prendre celle qui est là, si elle te convient, si elle a les options que tu aimes, ce genre-là. Mais effectivement, quand on est rendu à payer ce prix-là, c'est un peu comme...
Parce que modèle que vous avez essayé, bon, gris céramique. Bon, jusque-là, ça passe, mais c'est les accents de mauve. Est-ce que j'aurais choisi ça? Je ne suis pas certain.
Non, mais en même temps, tu sais...
Ça la rend unique. Ça,
oui, et puis aussi, moi, j'aime ça aussi quand un constructeur ose un peu, quand ils produisent une voiture qu'ils savent qu'il va être destinée à l'usage des journalistes, des choses comme ça, de te montrer ce qui est possible.
C'est ça, ça illustre les possibilités de personnalisation de la voiture.
Exactement. Tandis que quand, à chaque fois qu'on va chercher une voiture de presse, puis elle est noire, intérieur noir, tout ça, on trouve ça dole parce que les photos sont moches, parce que c'est la pire couleur pour les photos, pour voir la ligne de carrosserie. Alors, quand ils font l'effort de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils vont peut-être être... Puis ils ne seront pas pris avec. Il y a quelqu'un qui va l'acheter, cette voiture-là, après qu'on ait mis quoi, 12 000 km dessus collectivement. Puis ils ne seront pas pris avec. Mais moi, j'aime ça quand un constructeur automobile joue un peu d'audace puis nous propose des choses qui sortent de l'ordinaire puis qui nous montrent ce qui est possible.
Puis, tu sais, aujourd'hui, pas que les gens sont plus riches que jamais, mais on dirait qu'aujourd'hui, tu vas rouler... C'est rendu qu'on voit des Lamborghini Urus quasi quotidiennement quand tu roules dans la grande région métropolitaine. C'est même plus rare des véhicules à 250-300 000 $. Alors, la personne qui veut vraiment avoir une exclusivité, bon, clairement, tu t'achètes pas un VUS de luxe parce que les VUS de luxe sont plus... un G-Class Mercedes.
Non, c'est certain, mais si on reste chez Rolls-Royce, le Cullinan, ça, on n'en voit pas, là.
Bon, on n'en voit pas, mais on en voit trois fois plus que des Ghosts.
Oui.
C'est rare.
Oui.
On s'entend.
Oui.
C'est-à-dire, à 500-600 000 la copie, c'est pas tout le monde qui a l'argent, ni l'intérêt d'aller mettre cet argent-là là-dessus. Mais, tu sais, c'est pas rare de voir des Cayenne Turbo S, puis des VUS qui coûtent 150-200 000 $ Il y en a sur les routes aujourd'hui. C'est même pas rare. Puis tu vas croiser des Lamborghini l'été, tu vas en voir, tu sais, bon, des Ferrari. En termes de volume, est-ce qu'il y en a en proportion plus qu'il y en avait dans les années 80? Je pense que oui. Par rapport, même si le parc automobile a grossi, l'accessibilité à ces véhicules-là me semble aujourd'hui peut-être même plus facile qu'à une certaine époque. Mais Rolls-Royce, ça demeure exclusif.
C'est vrai ce que tu dis, mais c'est aussi, je pense, fonction du volume de vente, tu sais, de la marque. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Rolls-Royce produisait pas tant de voitures que ça par année. T'sais, c'était vraiment très, très rare. Là, on est rendu dans des chiffres qui sont 4 000, 5 000, 10 000 voitures par année, ainsi de suite. Puis, même chose chez Ferrari. Ferrari, tu sais, avant, c'était comme genre, ils produisaient 4 000, 5 000 voitures par année.
Oui, ils ont dépassé le cap des 10 000 il y a deux
ans,
je pense.
Fait qu'il y a plus, il y a de plus en plus. Puis, même chose chez Lamborghini. Alors, le fait qu'il y ait plus de capacité de production fait en sorte que, effectivement, ils en vendent plus et puis t'en vois un peu plus sur la route, surtout dans certains quartiers, dans certaines régions, évidemment.
Mais les Rolls, ça demeure des voitures...
D'exception.
D'exception, oui, hyper exclusive. T'en verras jamais deux pareilles. Tu sais, il n'y a personne qui commande ça. Oh, prends-moi-en trois de même.
Non.
Chaque Rolls-Royce est personnalisé. tu sais, cette voiture-là, la liste des options, tu l'as regardé avec c'est invraisemblable. Mmh. Le premier groupe d'options de luxe, c'était 32 000 $ avec le pavillon étoilé.
Mais en même temps, tu le veux, ce pavillon-là étoilé, parce que oui, mais tu sais que c'est possible, puis tu sais que ben, les autres qui ont été commandés vont probablement l'avoir aussi, puis c'est une caractéristique intéressante. C'est un feature intéressant.
C'est surtout ce qui rend la voiture unique par rapport aux autres marques, parce qu'il n'y a personne d'autre qui propose
les tapis en laine d'agneau à 4000 $ l'emblème qui se déploie sur le devant du capot, c'est 5005. La grille qui est éclairée.
Le rétroéclairage, c'est ça. Juste le rétroéclairage, c'est à 4500 l'option, je pense.
C'est ça. Ça finit pas. L'horloge au tableau de bord analogique, oui, avec la signature Rolls dedans, 6500$. Mm-hmm. Tu sais, ça finit pas. Fait que, tu sais, je disais à la blague qu'une option sur cette auto-là, c'est le prix de ma vieille minoune chez nous.
C'est à peu près ça pareil.
Ouais. Alors, tu sais, dans quelle sphère tu navigues quand tu commences à faire la sélection des options? Mais quand tu roules dans cette voiture-là, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est que Gabriel disait, oui, on a un châssis plus solide, mm-hmm, on a une suspension qui est, tu sais, ça n'a rien de sportif. Et il n'y a même pas de mode sport. Tu ne peux pas jouer avec les modes de conduite. Non. C'est comme ça qu'on te la sert. C'est comme ça que ça va rouler.
Ça m'amène à vous poser une question à tous les deux. Tu parles du mode sport. On joue tout sauf cette carte-là chez Rolls-Royce, alors que chez les autres manufacturiers de prestige, incluant Bentley, de plus en plus, on mise sur ce côté sport-là.
Oui, mais chez Rolls-Royce...
Est-ce qu'on a raison de poursuivre
chez Rolls-Royce, à champ gauche? Ils ont autre chose. Ils ont le Black Badge, qui sont les voitures de la série Black Badge, qui sont un peu plus typées, un peu plus dynamiques, un look un peu plus... on dirait un peu plus sinistre parfois, là, un peu à la Darth Vader là, et tout. Mais ils jouent aussi sur ce sport-là.
Mais on verse pas dans le sport.
Non, parce que l'identité de la marque, c'est pas ça. Bentley, c'est les 24 heures du Mans, c'est ces choses-là. Rolls-Royce, c'est autre chose. On est dans un autre registre. Et puis, même si les deux, ce sont deux marques célèbres britanniques, elles ont vraiment deux caractères qui sont
Elles ont déjà été beaucoup plus proches qu'en ce moment.
Même si ce sont maintenant deux marques anglaises qui sont contrôlées par
des Allemands,
exactement. Rolls-Royce étant propriété du groupe BMW, puis évidemment Bentley, propriété du groupe Volkswagen.
La dépréciation, ça ressemble à quoi sur un modèle comme ça? Est-ce que c'est un modèle qui va maintenir sa valeur, qui va bien évoluer ou...
Tu sais, moi, c'est pas compliqué. Avant que j'essaie cette voiture-là, j'étais allé essayer... La dernière voiture que j'avais conduite avant ça, Rolls-Royce, c'était une Rate 2017. Ouais. Donc, ça fait quand même 4 ans. Puis je vais toujours me souvenir, j'étais allé chercher la Rate chez le concessionnaire. Elle était à 430 000 $ la Rate que je conduisais. Et dans la salle de montre, il y avait un modèle identique à celle-là. Bon, une Rate, mais 2016, donc un an d'usure, 6 000 km au compteur, avec, je dirais pas le même équipement, mais disons un niveau de luxe équivalent. Et la voiture était 125 000 $ de moins, ce que le concessionnaire demandait par rapport à une neuve. Donc, une voiture d'un an et de 6 000 km coûtait, usagée, elle était comme une neuve, là, on absolument s'entend, là. Un an et 6 000 km, c'était 125 000 $ de dépréciation.
Et finalement, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Oui, il y a des gens qui ont un coup de cœur instantané, qui vont l'acheter, mais il y a aussi un lot de clients qui vont vouloir la commander selon leur goût et être les premiers à s'asseoir dedans.
Parce que ces voitures-là, tu sais, je veux dire, une Maserati, ça déprécie. Pourquoi ça déprécie une Maserati? Parce que tu te présentes chez le concessionnaire, ils en ont 25 en stock, il faut qu'ils écoulent, puis ils sont pas capables, puis là, ils te mettent des rabais. Puis ils partent une compagnie de location on the side pour te les passer. Parce que, je veux dire, l'offre est de loin supérieure à la demande. Puis ils n'ont pas réussi à cultiver l'image de la marque. À l'opposé, chez Ferrari, tu vas te présenter là-bas, tu veux t'acheter une Ferrari. Oui, tu vas t'acheter une Ferrari, mais elle va déprécier un peu la première année. Sauf que...
Ça, c'est si tu réussis à en acheter une.
Bien, c'est ça l'affaire. C'est que tu commandes ta voiture.
Oui. Puis ce qui va se passer, si jamais tu gagnes à la loterie puis tu t'en vas chez Ferrari Québec, ils ne te vendront pas une voiture neuve. Non. Parce qu'ils n'en ont pas en stock. Ils vont dire, Monsieur Goyer, on va vous vendre celle-ci, qui est une voiture usagée, qui a 12 000 km. Je veux dire, roulez avec ça pendant 6 mois, 1 an. Revenez nous voir, puis prenez-en soin, faites pas trop de kilométrage et tout et tout. Puis là, on va pouvoir peut-être vous transférer sur une Spider, par exemple. Mais ce sera toujours pas une voiture neuve, ça va être encore une voiture usagée. Puis
il faut
troisième,
se qualifier,
peut-être.
Là. Il faut se qualifier, il faut bâtir son dossier.
Mais c'est parce que ce qu'ils veulent
ça
pas.
Ça dépend aussi, tu sais.
Ce qu'ils veulent pas, c'est que ce soit des feux de paille.
Ouais.
Parce que tu peux avoir de l'argent du jour au lendemain, puis la première affaire qui te vient en tête, « Ah, je vais m'acheter une Ferrari. » Puis 6 mois après, tu n'as même plus les moyens de la rouler parce que tu as flobé ta fortune ou n'importe quoi. Alors, l'image de la Ferrari, c'est pas ça. Ce qui arrive chez Lamborghini,
absolument.
Par exemple.
Parce que chez Lamborghini, la clientèle, ben, t'en veux une, on va t'en vendre une.
Oh, oui, absolument. Puis on a de l'inventaire. Puis, tu sais, bon, peut-être pas dans certains modèles, mais si tu veux avoir la performanté telle, là, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, Lamborghini, c'est beaucoup plus du bling-bling, si tu veux mon avis, que Ferrari en termes de on liquide, puis on a, puis on passe à un autre appel. Puis Rolls-Royce, l'affaire, c'est que c'est pas ça. C'est que le prix est tellement indécent que la dépréciation n'a pas le choix d'arriver. À l'exception de, tu sais, si c'est un modèle hyper exclusif qu'il n'y en a pratiquement pas eu dans le monde, là, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, une Ghost, je peux pas dire une Ghost régulière, mais c'est la plus... Je peux-tu dire le standard des Rolls-Royce?
Oui, même s'il n'y a rien de standard.
Ce qui va déprécier
ouais,
le plus, ouais. Selon moi, c'est une Cullinan. Ça, c'est sûr.
Ah oui?
Parce qu'il y a
pourquoi?
Parce qu'il y en a trop. Parce qu'il
y
en font, parce qu'ils en vendent, puis parce qu'à un moment donné, tu atteins la limite. Là. C'est le véhicule, comme l'Urus chez Lamborghini. Ouais. Un Urus chez Lamborghini, c'est de la chute libre, la dépréciation de ça. Là. C'est sûr. Alors, tu sais, mais je suis certain, Gabriel, que tu as été content de conduire la Rolls.
Ah, ben écoute, c'est sûr.
Ça fait changement.
Oui, tout à fait. Ça change des Hyundai Elantra puis des Kia K5 et autre chose.
Ah, ben ça change même d'une Audi A4.
Ah, ouais,
ça change
tout à fait.
De. Bon,
tout à fait.
C'est un univers.
Puis c'est ça qui fait un peu le charme de notre métier, c'est de pouvoir.
De sauter d'un à l'autre.
Oui, puis de faire un petit reset du computer à chaque fois qu'on change de voiture. Ouais, ajuster les barèmes.
Mais je me fais un devoir. Tu sais, moi, j'étais passé d'une RS6 à une Mirage.
Oui.
Tu vois, ça avait bien fonctionné. Non, c'est pas vrai. J'étais passé d'une M5 compétition à une Mirage. Retour à la réalité assez brutal.
Oui, il faut se réadapter.
Gabriel.
Salut, boys.
Okay,
merci, bye-bye.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Cette semaine, Antoine, j'ai conduit le Chevrolet Silverado 2500 et je l'ai conduit comme beaucoup de conducteurs de pick-up, c'est-à-dire moi seul à bord avec aucune charge à l'arrière. Non, blague à part, effectivement, c'est l'utilisation que j'en ai faite. Et tout au long de l'essai qui s'est étiré là, sur plus de 1000 km, parce que c'est avec ce véhicule-là que je suis allé voir le Ford F-150 électrique, ce que je trouvais très ironique, soit dit en passant. Et tout ce qui me venait en tête, c'est que c'est moins confortable qu'un F-250, puis c'est encore moins confortable qu'un Ram 2500. Je n'enlève aucune capacité.
Oh, Seigneur, t'es certain? Parce que
absolument.
Un Ram 2500 à l'âge, ça brasse son homme. Là.
Ça brasse, mais le Silverado, je me suis fait brasser.
Et avec quelle version?
Ben voilà, donc c'était une version High Country, donc une version très bien équipée, c'est-à-dire avec le V8 6.6 litres Duramax, donc mécanique diesel. Et ça, j'aurais à dire. Hein? Les mécaniques Duramax, c'est très, très, très efficace. Et j'ai fini avec 14 litres au 100. Là. Donc, c'est assez exceptionnel. Mais
ce qui est beaucoup considérant que tu roulais à l'aige.
Oui, que je roulais à l'aige, mais en même temps, on a un camion qui est super pesant et la mécanique, en soi, elle est très grosse. Là. La cylindrée, elle est
non,
très grosse.
Non, je sais,
là.
Mais c'est... t'as pas nécessairement été doux avec, là, parce que t'es capable de faire mieux que ça, c'est clair.
Beaucoup d'autoroutes, régulateur à 120, et effectivement, ça ressemblait à 14 litres au 100. Ça ressemblait à 14 litres au 100.
Germain, j'apporte ton attention. On va le dire aux gens, là, parce que ça, c'est les joies de faire une émission.
Les gens ne le voient pas.
Les gens ne le voient pas, mais on a un écran devant nous.
Oui.
Et là, il vient de passer une pub de briques.
Oui.
OK?
Oui.
Pour la vente d'après Noël.
Ah, Peut-être que.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer?
C'est une bonne question.
Parce que, je reviens au début de l'émission où je parlais du match de hockey.
Et de la fête
nationale. Et j'ai vu cette pub-là hier. Oui. C'est la vente d'après Noël de briques.
Peut-être que c'est la vente d'après Noël du campeur.
Peut-être. Oui. Mais salutations aux gens de briques. On ne l'a pas compris. Puis Noël, c'était il y a 6 mois.
Oui. On revient à notre mouton qui est le Silverado.
Ouais.
Et,
qui est très pratique pour aller chercher des meubles en passant.
Oui, très pratique. Ouais. Très pratique. Et ce qui est quand même intéressant de mentionner, parce que, bon, oui, la mécanique diesel qui est très efficace, mais elle est coûteuse aussi. Parce que l'option du moteur à essence vers le moteur diesel, en fonction de la version qu'on choisit, c'est entre 10 et 12 000 $. Ouais. Donc, et ce jeu-là est beaucoup plus grand qu'avec une camionnette 1500, par exemple, où l'option ne sera pas aussi élevée. Là.
Mais là-dessus, je vais répliquer en disant, c'est vrai sur l'achat initial, mais à la revente, tu récupères tout.
Absolument.
Tu récupères tout. Parce que un V8 à essence dans ce genre de camion-là, ça consomme tellement que là, un contracteur, par exemple, ou quelqu'un qui achèterait un HD pour des besoins spécifiques, parce que tu n'achètes pas un HD si tu n'en as pas besoin, tu vas toujours préférer aller chercher du diesel. De toute façon, le plus clair des ventes se font avec les moteurs diesel. Absolument. Autant chez Ford, chez Ram que chez GM. Et tu sais, dans les trois cas, on a des mécaniques diesel extrêmement performantes.
Ouais.
Ford a renouvelé ses mécaniques Power Stroke récemment. Le Cummins chez Ram, c'est extraordinaire. C'est fort comme un bœuf.
Et c'est des moteurs qui vont tourner là, des centaines de milliers de kilomètres. Là,
mais il y a le moteur Duramax, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait l'entretien prescrit sur ces moteurs-là qui font face à une problématique. Les injecteurs, si ça n'a pas été entretenu adéquatement au niveau des filtres à essence, des filtres à diesel, si ça n'a pas été entretenu adéquatement, tu dois remplacer tes injecteurs à 150-200 000 km et c'est un job de 10 000 $ faire ça.
OK, donc alors, il faut le prévoir.
Faut que tu fasses tes entretiens. Si tu fais tes entretiens, tu n'auras pas de problème. Mais sinon, les injecteurs deviennent défectueux.
Et si tu achètes un véhicule d'occasion, il faut avoir confiance en la personne qui nous le vend pour avoir ou le faire respecter comme il faut.
C'est le point que j'apprends depuis. J'entends beaucoup parler des moteurs Duramax avec les problèmes d'injecteurs. C'est un problème de plus en plus connu. Alors, sachez qu'il y a un entretien périodique à faire là-dessus qui n'est pas nécessairement très coûteux. Il faut juste le faire.
Non.
C'est ça.
Un dernier mot en terminant. Des à-coups dans la transmission continuellement. Donc, c'était décevant. Je ne dis pas que la transmission n'est pas solide, mais quand on le conduit, on sent les à-coups continuellement.
Essayer des camions comme ça, à l'âge, c'est vraiment pas l'idéal. Ça, il faut remorquer, il faut charger, c'est là que tu vois, puis effectuer un exercice de comparaison avec les trois camions en même temps, c'est là que tu vois vraiment les différences. GM, c'est sûr que c'est des camions qui ont peut-être un peu moins évolué que du côté de Ford, où là, on a mis des nouvelles mécaniques, des nouvelles technologies.
Mais en même temps, c'est efficace.
C'est très efficace. Puis, c'est encore ceux qui ont les habitacles les moins convaincants.
Ah, ça, j'ai pas le choix de l'admettre. Là. Même si c'était une version là, High Country, tout équipée, en dedans, là, ça fait un peu dur. Là.
Hein? Sur, à comparer d'un Ford puis d'un Ram. Là,
ben, pour une version...
Parce que ce que tu avais, c'est un camion de 100-110 000 $.
Oui, effectivement. Donc, tu sais, pour une version d'entrée de gamme, j'en aurais pas fait de cas. Mais quand on est rendu dans ces sphères-là, c'est sûr que le Ram puis le Ford, ils sont plus beaux. Puis je les ai conduits l'année dernière. C'est nettement plus beau. Mais bon, est-ce qu'on veut de la beauté ou on veut travailler?
C'est des camions qui coûtent cher, mais qui sont beaucoup plus rentables que n'importe quel autre véhicule de 100 000 $ que vous pourriez vous acheter.
Ça, effectivement.
Ça, là-dessus, il n'y a pas un mot.
De ton côté, tu as conduit une voiture que je trouve magnifique.
N'est vraiment pas rentable. Ça, c'est sûr.
Effectivement, parce que c'est un gouffre financier un petit peu plus grand. C'est la Volkswagen Arteon.
En fait, c'est pas compliqué. Voiture magnifique, tu l'as dit. Ligne extraordinaire, très confortable. J'aime beaucoup l'aménagement, les retouches esthétiques qu'on a fait à l'intérieur. Il y a une seule version disponible pour cette année. Elle coûte 53 000 $ avant les frais de transport préparation. Puis ça explique pourquoi on n'en vend pas. Parce que à ce prix-là, tu peux obtenir, pour à peu près le même paiement de location, même un peu moins cher, tu vas avoir une Audi A4 équivalente qui a une meilleure valeur résiduelle et Volkswagen est pris avec ses Arteon.
C'est le calcul que bien les consommateurs font, là.
Mais c'est une voiture à ne pas renier. C'est une voiture 5 portes, coffre gigantesque, beaucoup d'espace à l'arrière, très confortable pour de longues, pour sur la longue route. Ça consomme pas trop. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une boîte DSG, il y a une 8 vitesses conventionnelle, donc c'est peut-être pas aussi sportif qu'on le voudrait des fois. Et c'est un moteur 4 cylindres, hein? Contrairement à sa rivale qui, à prix égal, va t'offrir un V6 plus puissant qui est la Kia Stinger.
Et je peux comprendre que ça refroidisse certains consommateurs.
Oui, c'est cher pour ce que c'est.
Psychologiquement, c'est difficile d'imaginer un moteur à 4 cylindres dans une, entre guillemets, grosse voiture comme ça. Même si le rendement est là et, tout, et la puissance et tout ce que tu veux est là.
Mais tu sais, c'est une voiture raffinée, c'est une voiture magnifique.
On lui enlève rien.
Puis on a le même problème avec cette auto-là qu'on avait à l'époque avec la Phaeton. C'est-à-dire que c'est une voiture qui mériterait d'avoir une badge plus prestigieuse, mais qui porte l'emblème Volkswagen et qui se vend au prix d'une voiture plus prestigieuse, ce qui explique pourquoi les gens ne l'achètent pas. Mais dans les faits, c'est une voiture qui n'a rien à envier, honnêtement, en termes de confort. Tu sais, moi, je préfère de beaucoup conduire cette voiture-là à une Kia Stinger qui n'offre pas ce niveau de raffinement qu'on va retrouver dans la dans l'Arteon. Je trouve que c'est une voiture qui se distingue, qui est vraiment magnifique. Je les regarde sur le marché d'occasion. Tu peux dénicher un 2019 pour à peu près 35 000 $. Je trouve que c'est une sacrée aubaine versus un modèle neuf que tu vas payer avec les frais de transport 55 000. C'est trop cher. C'est ça le problème de cette auto-là. Parce que sinon, c'est une sacrée voiture. Et c'est dommage. On va l'abandonner.
Ben oui, effectivement, parce que ça doit. Il n'y a aucune rentabilité qui doit être associé à cette voiture-là, c'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Puis, bon, je le disais en présentant la voiture, c'est une voiture qui est magnifique, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est magnifique? C'est qu'on n'en voit pas.
Aussi.
C'est ça aussi. Il y a une exclusivité.
Puis que la forme de sa carrosserie est non conventionnelle par rapport à ce qu'on va offrir ailleurs.
Elle ressemble pas à la Passat.
C'est pas une Passat, non. C'est pas une Audi.
La Passat CC, c'était une très belle voiture, mais on savait que c'était une Passat.
Ah, puis encore, la Passat CC, c'était une très belle voiture. Oui. Elle avait fait son temps, c'est tout.
Oui, oui. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est encore plus distinguée par rapport à la Passat.
Ah, vraiment. Et c'est vraiment une très, très belle voiture. Puis dommage qu'on l'abandonne. En fait, c'est peut-être même la dernière année. Ouais. On verra. Parce qu'à 350 unités vendues au Canada, à 3600 unités vendues aux États-Unis, c'est 4 fois moins que la Kia Stinger. Et c'est 3 fois moins que la Porsche 911.
Oui. Alors, et la Kia Stinger qui n'est pas une voiture à grand volume
Kia pense l'abandonner, alors ça te donne une idée. Là.
Oui, effectivement, la comparaison est très bonne.
C'est probablement la dernière fois que je conduisais une Arteon et c'est bien dommage.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, quelques questions du public pour terminer. On a Lucie qui nous dit qu'elle apprécie beaucoup sa Chevrolet Volt 2014. Elle se demande par quoi la remplacer. Donc, elle ne nous a pas soumis davantage de critères, mais est-ce qu'il y aurait des voitures comparables dans le marché neuf?
Dans le marché neuf, en fait, la Volt n'existe plus. On peut se tourner vers une Volt 2018, dernière année de production, qui peut être intéressante pour rajeunir, pour gagner en autonomie, 83 km contre 45 à peu près pour la première génération de Volt. Mais sinon...
On peut faire le saut vers le 100% électrique aussi.
Bien, l'option qui s'y compare et qui est toujours disponible pour encore quelques mois, c'est la Honda Clarity.
Oui.
Honda Clarity qui offre une technologie qui est comparable à la Volt en termes de...
Une autonomie aussi qui est comparable.
Qui est la même que la dernière Volt, là, à 2-3 km près, et qui est une auto plus confortable et plus spacieuse, mais esthétiquement discutable, ça, c'est sûr. Et Honda a annoncé son abandon il y a quelques jours à peine. Alors, c'est peut-être votre chance, Lucie. Pour moi, c'est une auto méconnue, horrible. Je veux dire, sur le plan esthétique, ça marche pas, là.
Mais une fois qu'on est assis à bord, tout se passe bien.
Mais sur le plan technologique, ça s'y compare énormément. Ça va être fiable, ça va garder sa valeur. C'est une auto méconnue, je pense, et c'est un très, très bon achat.
J'ai hâte de voir, d'ailleurs, par quoi Honda va la remplacer, hein, entre guillemets. Est-ce qu'on va arriver avec une voiture qui va être 100% électrique? Est-ce qu'on va continuer dans l'hybride rechargeable? Je sais pas trop. On a Claude qui nous parle de la Civic, hein, dont on a discuté un peu plus tôt. Il nous mentionne que la location de son modèle se termine sous peu. Il se demande s'il devrait opter pour un deal, comme il le mentionne, sur une 2021 ou attendre la 2022.
Alors, c'est sûr qu'ils ont des aubaines sur des 2021.
Et l'inventaire est là.
L'inventaire est là, puis ils ont du noir, du blanc. Bon, on est tanné de les voir, les Civic de cette génération-là. Ils l'ont étiré trop longtemps. Ils ont des sacrés bondés là-dessus. Mais la question, c'est est-ce que votre location se termine vraiment ou est-ce qu'on vous a contacté d'avance pour changer votre Civic actuel? Si c'est le cas, moi, je vous conseille d'attendre, de finir votre location actuelle et là, de passer à une 2022. Si vous êtes... si votre location se termine réellement, ben moi, je veux dire, oui, vous pouvez profiter de nos bennes sur une 2021 si c'est une location. Mais d'un autre côté, il faut comprendre une chose, c'est que la 2022, les taux vont être plus élevés, mais les valeurs résiduelles vont être beaucoup plus élevées aussi.
Absolument.
Alors, ça vaut peut-être la peine de comparer les deux parce que si vous magasinez sans considérer que vous avez une Civic actuellement, là, allez magasiner indépendamment du fait que vous avez une location entre les mains présentement. Et là, vous allez voir les vrais chiffres et comparer des pommes avec des pommes. Parce que là, comme vous avez une Civic en location, on va pouvoir travailler les chiffres pour vous vendre ce qu'on a actuellement en stock. On sait que les 2022, on va être capable de les vendre facilement. Mais les 2021 sont peut-être un petit peu plus difficiles à écouler, là. On en a plein les cours. C'est des autos qu'on est tanné de voir. Évidemment, les résiduels vont être plus faibles parce qu'on sait que c'est une voiture qui va être en fin de vie et qui va être peut-être moins intéressante comme véhicule d'occasion dans 3, 4, 5 ans. Alors, il y a ça qu'il faut considérer. Moi, je magasinerais indépendamment en ne disant pas que vous avez une Civic en location actuellement. Et là, vous aurez la différence de prix. Vous serez plus enclin à faire votre choix. Personnellement, c'est sûr que j'irai vers un 2022. La 2021, je suis tanné de l'avoir. puis je veux dire, technologiquement, c'est une auto qui a vieilli aussi. Je parle pas au niveau mécanique, mais au niveau de la présentation intérieure, de l'information, les faux divertissements, l'instrumentation.
Déjà qu'on l'a étiré d'une année, on était dû pour du changement, là.
Oui, puis vous allez gagner beaucoup en confort avec la nouvelle Civic. Hein. Les sièges sont plus moulés. La position de conduite est un peu plus élevée. On aura travaillé les suspensions. Donc, juste pour ça, ça peut valoir la peine. Moi, j'irai vers une 2022.
On termine avec la question de Sylvain qui veut se procurer une mini-fourgonnette à moteur V6 dans le marché neuf. Quelle est ta préférence?
À moteur V6, donc on élimine bien sûr la Toyota Sienna.
Oui.
Écoute...
Donc, il reste Chrysler, Pacifica et Grand Caravan, disons ça comme ça, Kia Carnival et Honda Odyssey.
Bon, c'est sûr que l'Odyssey, c'est une valeur sûre. C'est un véhicule qui a un peu vieilli, mais c'est encore celle qui est peut-être... un peu plus intéressante sur le plan dynamique à conduire. J'aime beaucoup la Chrysler Pacifica pour le confort, la polyvalence de son habitacle, mais malheureusement, sur le plan financier, on sait que c'est un véhicule qui va déprécier plus que la moyenne et Kia, c'est très jeune comme produit. C'est un produit sérieux. Alors, je vous dirais que Kia peut être une alternative très intéressante. Je pense que c'est elle qui va offrir actuellement. Parce que le problème chez Honda, c'est qu'on est trop cher. On n'a plus de version d'entrée de gamme. Ça commence à 43, 44 000. Et si vous voulez aller vers une version hyper luxueuse, c'est une chose. Mais si vous voulez avoir une bonne valeur sur le marché actuellement, je pense que Kia a une formule très intéressante. Tant qu'on va pas dans les hautes sphères, on reste dans un milieu de gamme. Cela dit, Chrysler propose, selon moi, un produit qui est très confortable et convaincant et dont le comportement routier est très intéressant aussi. Alors, est-ce que Chrysler peut avoir une aubaine assez intéressante pour vous? Ça, c'est une avenue à observer. C'est très difficile de répondre à cette réponse-là parce que à cette question-là parce que je ne sais pas vers quel type d'équipement on se dirige. Si on s'en va vers du gros luxe,
ouais,
Honda a l'avantage parce que la dépréciation est faible, la fiabilité est là, on le c'est
mais si on cherche un prix...
Si on cherche une valeur, ben là, moi, j'hésiterais davantage entre Chrysler et Kia, mais Kia a un produit très, très, très sérieux et convaincant. Alors,
bon,
ne négligez surtout pas Kia dans votre équation.
Merci beaucoup, Antoine, et bon hockey.
Voilà.
Cube Radio.